une chose que nous voulons jamais oublier, c'est que Jésus-Christ va revenir sur terre. Il a promis. Il reviendra, le même qui était ici il y a 2000 ans, reviendra et sera avec nous. Et ce passage en Actes, où les anges, n'est-ce pas, Actes chapitre...
Un 10 et 11, oui. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Quand il a dit « de la même manière », il y a même une plus grande précision que cela, donnée par la suite, on va le lire. C'est que Christ non seulement va venir comme il est parti, mais ses pieds vont se mettre sur le même endroit où il a quitté il y a 2000 ans. Il va venir sur la montagne des Oliviers d'où il est sorti. En Zacharie, dans l'Ancien Testament, dans le 14e chapitre, et au verset 3 et 4, nous lisons cela.
L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient.
À ce moment, la montagne va se séparer pour permettre l'eau qui va couler du trône de Dieu d'entrer dans la mer morte. Et la mer morte va revivre après toutes ces années. Voilà ce qui est promis. Christ reviendra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, et à ce moment va commencer son règne de paix après avoir détruit l'Antichrist et son royaume. Mais il y a un autre verset où Jésus lui-même a dit qu'il allait revenir. Si vous voulez regarder en Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14, et on va lire là les deux ou trois versets qui commencent le chapitre là.
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Voilà. On se console avec ce verset. Il a dit, je reviendrai. Et on a cette promesse venant de la part de la bouche de Jésus lui-même. Je reviendrai. C'est une promesse ferme, aussi ferme que... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Christ promet la vie éternelle et qu'il la donne, ainsi il a promis de revenir. Mais le mot que j'aimerais souligner n'est pas celui qui va revenir, mais qui va revenir pour nous prendre. C'est le mot prendre qui est intéressant à noter dans ce verset. Tout de suite, on décèle que cette venue n'est pas la même que les anges ont prédit, qu'il allait poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ici, il n'est pas question qu'il s'arrête sur la montagne des Oliviers, mais qu'il va nous prendre pour être avec lui, afin que là où il est, nous soyons aussi. Quand il a dit cela, bien sûr, les disciples n'ont pas compris ce qu'il a voulu dire. Mais la révélation fut donnée à l'apôtre Paul, où il précise exactement ce que Jésus a voulu dire. Il y a deux mentions de cela, et cela s'appelle, écoutez, l'enlèvement de l'Église. Ce moment où Christ va nous prendre, va prendre son Église, nous élever avec lui dans les cieux, d'un seul coup, dans un clin d'œil. Nous n'allons pas lire le passage en 1 Corinthiens 15, quoique c'est très intéressant, mais nous allons tout de suite aller en 1 Thessaloniciens chapitre 4, et je crois que c'est à partir du verset 15 que Emmanuel va lire.
1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées.
C'est exactement ce que Jésus a dit, je vous prendrai, continue.
À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Alors là nous avons la chose dite beaucoup plus clairement, c'est-à-dire que cet enlèvement de l'Église, c'est un événement totalement différent que celui quand il viendra régner sur terre. C'est la bienheureuse espérance. C'est l'Église qui s'est consolée avec ce verset à travers des âges. C'est notre espoir d'être pris. D'abord, les morts vont ressusciter tous ceux qui sont sauvés. Ils vont ressusciter. Et puis, nous, qui sont vivants à ce moment-là, nous serons dans un instant changés, enlevés à se dénuer avec le Seigneur. Quand est-ce que cela aura lieu? Je crois que c'est clair quand il a dit à la fin, « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Mais pourquoi se consoler? Parce que on peut se consoler du fait que on ne sera pas obligé de passer par cette horrible tribulation. C'est qu'au lieu de voir ces horreurs qui vont venir sur terre, nous serons enlevés et nous serons avec le Seigneur pendant le règne de l'Antichrist, pendant toutes ces horreurs qui vont venir sur terre. Il y a un autre verset qui précise que c'est avant la tribulation, c'est en 1 Thessaloniciens 1, 10.
Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
Qui nous délivre, nous attendons son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Mais qu'est-ce que c'est cette colère? Mais c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur terre. Nous ne serons pas assujettis à cela. La bienheureuse espérance, c'est que nous serons avec le Seigneur pendant toutes ces horreurs qui seront sur la terre. Je crois que c'est clair dans la parole de Dieu, consolez-vous. On ne pourrait pas consoler quelqu'un en disant, vous savez, quand la guillotine va tomber sur votre tête, vous ne sentirez pas grand-chose. Hein. Ça ne peut pas consoler qui que ce soit. Mais quand on peut dire, nous serons délivrés de la colère à venir, que nous serons enlevés, consolez-vous les uns les autres, c'est que tout ceci aura lieu même avant. Quels sont les signes qui vont précéder l'enlèvement? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes presque à l'enlèvement? J'ai une nouvelle à vous dire ce matin. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun signe qui précède l'enlèvement de l'Église. Par contre, il y a beaucoup de signes qui précèdent sa venue en gloire. Donc, chaque fois qu'on voit tous ces signes qui précèdent sa venue en gloire, il faut enlever 7 ou 8 ans avant, parce que l'autre va venir avant. Alors, si jamais on voit des signes qui précèdent son retour en gloire, d'autant plus sont des signes pour nous que le temps s'approche. En Matthieu, chapitre 24, et au verset 14 à 16, nous lisons ceci.
Matthieu 24, 14 à 16. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
Donc un signe qui précède sa venue en gloire, c'est que quand vous verrez l'Antichrist dans le temple, vous saurez qu'il va venir bientôt. Ça, c'est un signe qui précède sa venue en gloire, mais je vous entends maintenant. Bien sûr, quand je verrai si j'étais là pour voir l'Antichrist, je saurais que bientôt le Christ va revenir. Ça, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que quand il va profaner le temple, déjà les trois ans et demi qui précèdent seront déjà écoulés. Alors c'est à ce moment qu'ils viennent. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des signes qui précèdent l'arrivée de l'Antichrist? Une fois que l'Antichrist est là, bien sûr, tout le monde saura que bientôt Christ va revenir. Mais est-ce qu'il y a des signes qui précèdent l'arrivée de l'Antichrist? Et oui, au début du chapitre 24, il y a là mentionné des tremblements de terre, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Mes chers amis, nous sommes dans l'époque des catastrophes naturelles. Regardons tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Le tsunami là-bas, dans l'Est, dans l'Orient, puis l'ouragan qui a frappé New Orleans avec la ville pratiquement rasée, des incendies sans fin en Australie et dans l'ouest des États-Unis. Maintenant, il y a le Red River qui menace tout le Minnesota et de côte du Nord. Et j'en passe. Des tremblements de terre, on voit, ils s'accélèrent de plus en plus. Il y avait toujours eu des catastrophes, mais pas les uns après les autres de tout genre. Il a mentionné aussi la famine, mais vous rendez compte que cet homme qui est à la tête du Soudan actuellement, qui a été jugé et trouvé coupable, et que si jamais il quitte son pays, on doit l'arrêter. Il quitte son pays tout le temps. Il est allé en Égypte, personne ne l'a touché. Et il va maintenant en Qatar, personne ne le touchera. Il se promène librement, malgré le fait qu'il a été condamné. Et cet homme-là, depuis sa condamnation, a interdit toute distribution de nourriture en Soudan. Et on proclame maintenant le fait qu'il mourra 1 million de personnes si quelque chose ne se passe pas bientôt. Famine sur famine, comme en Éthiopie, chers amis, tous ces signes précèdent sa venue. Nous avons d'autres signes aussi, des signes comme cette crise financière. Cette réunion qui aura lieu la semaine prochaine, à Londres. Alors, tout ceci nous prépare pour quelque chose. Quand Bush, pas le dernier, mais son père, était au pouvoir, il parlait de nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, ça veut dire une sorte de gouvernement mondial qui coiffe tout, dans le sens que si on a un gouvernement mondial, il n'y aura pas toutes ces guerres. Tout sera contrôlé, tout sera mis en ordre. Alors, quand il a annoncé ça, les chrétiens en Amérique ont trouvé ça mal. Ils ont parlé beaucoup. Étant donné que des vrais chrétiens aux États-Unis, c'est de la partie républicaine qui a soutenu, il s'est tu. Il n'a plus parlé de nouvel ordre mondial. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le nouvel ordre mondial n'a pas poursuit son chemin. Mais comment arriver avec cela? Chaque gouvernement veut être indépendant, la France veut être indépendante quand même, l'Angleterre veut être indépendante, l'Allemagne veut être indépendante. Comment pourrions-nous réunir ou plutôt conditionner les gens à accepter un gouvernement mondial, mais par une crise financière. Si tout pays souffre des crises monétaires, les gens diront à la fin, mais écoutez, hein, il vaut mieux être ensemble que de mourir de faim quand même. Hein. Il faut tout de même avoir de l'ordre dans la pagaille. Actuellement, il n'y a que la pagaille partout, il faut de l'ordre. Et voilà, mais c'est ça que je veux dire. Gouvernement mondial, vous savez que des pancartes, des écritures ont été déjà faits pour manifester à Londres la semaine prochaine. Nous voulons un gouvernement mondial, ça va être montré. Vous savez que la Chine réclame, même pour la semaine prochaine, la Chine réclame qu'on quitte les différentes monnaies du monde et qu'on accepte une monnaie mondiale. La Chine va venir avec cette idée, va le dire. La Chine qui a financé beaucoup l'argent en Amérique, la crise en Amérique, se trouve avec des dollars qui perdent leur valeur tout le temps. Donc la Chine a toute raison de vouloir quitter le dollar et de passer à une monnaie mondiale. J'ai entendu cette dernière semaine de la bouche de plusieurs chefs de gouvernement dire il est presque temps maintenant d'avoir une monnaie mondiale. Pourquoi je dis tout cela? Parce que ce qu'on voit actuellement n'est pas par hasard. On pense toujours, oh là 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 là, mais comment on est arrivé là? On est arrivé là parce qu'on a voulu qu'on arrive là. Tout cela a été programmé jusqu'à la dernière note. Parce que depuis qu'il a dit « Nouvel ordre mondial », tous ont travaillé pour que tout arrive maintenant. Vous savez, il faut d'abord conditionner les gens pour arriver à quelque chose. On ne peut pas dire d'un moment à l'autre, on va avoir une monnaie mondiale, on va avoir un gouvernement mondial. Non, parce que les gens vont dire, mais non, on ne veut pas ça. Conditionnement, petit à petit. Vous savez, on dit, mais comment les gens vont-ils accepter la marque de la bête? Mais par conditionnement. Vous savez que pour passer plus vite, quand on prend le train à certains endroits maintenant, on peut mettre son doigt là. Au lieu d'attendre, on met son doigt et on passe le premier. Petit à petit, dans différents pays, on utilise la marque de la main d'une manière ou d'une autre pour faciliter. Mais imaginez, quelqu'un qui arrive en disant, vous savez, ces cartes qu'on doit porter, on les falsifie, puis voilà, d'autres personnes le prennent, et ceci, cela, et on les oublie à la maison. Écoutez, il vaut mieux avoir une marque qui dit tout, et puis voilà, ah oui, en fait, c'est pas mal. On conditionne le monde. Vous savez que le monde est conditionné maintenant pour un gouvernement mondial. Vous savez que le monde est conditionné pour avoir une monnaie mondiale. Oh, il y a quelques pays réticents, mais l'Angleterre est pour. On a fait du progrès quand même, dans le mauvais sens. Pourquoi je dis tout cela? Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura un gouvernement mondial, avec un homme qui s'appelle Antichrist qui va s'asseoir dessus. Vous savez qu'on est à la veille de la formation d'un gouvernement mondial, à la veille. Il y a d'autres aussi. Je prends par exemple Israël et la guerre qui se prend. Vous le savez aussi bien que moi que l'Iran a dit qu'il voulait rayer Israël de la carte. Israël, à l'heure actuelle, veut bombarder l'Iran, l'Amérique du Nord. Bas les pattes. Ne le fait pas. Mais Israël veut aller bombarder l'Iran, ça c'est sûr. Mais en attendant, tout le Proche-Orient s'arme de plus en plus. On voit cette guerre qui se place sur l'horizon, une guerre à outrance dans le Proche-Orient, telle que nous n'avons jamais vu jusqu'ici. Ils arment le Hamas, ils passent les armes de tous les côtés. Israël, avec les avions, ont bombardé un convoi d'armes en Soudan. qui n'a pas été dit dans la presse française, autant que je sache, ni en CNN. On garde ça secret parce qu'on ne voulait pas que ça soit connu trop. Il y a des choses incroyables qui se passent à l'heure actuelle. Une préparation d'Israël et des pays d'alentour. Et cette semaine, en Israël, en vendredi, ils auront un nouveau premier ministre, Netanyahu, qui n'est pas comme le dernier, qui ne veut pas marcher avec les accords faits auparavant. Ça veut dire que tout est au point de culminer là-bas. Vous savez que cette guerre est prédite dans la Bible? Vous savez que cette guerre qui se prépare, c'est une guerre des derniers jours. Il y a des derniers jours qui commencent avec Israël, et puis il y a la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin maintenant des derniers jours. J'aimerais qu'on lise actuellement Zacharie chapitre 12. Zacharie 12, cette partie-là de la guerre. C'est quoi? C'est un 6. Zacharie 12, 6.
En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem.
Il dévorera tous les peuples d'alentour. C'est intéressant ça. Dévorera tous les peuples d'alentour. Tout le chapitre 12 d'ailleurs, c'est un chapitre à lire, parce que c'est fort intéressant. Cette guerre se prépare, cette guerre est presque là. Mais maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble un passage. Alors, ouvrez votre Bible en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et pendant qu'on se prépare de lire le verset 3 à 8, j'aimerais dire juste quelques mots avant qu'Emmanuel le lise. C'est que l'église de Thessalonique a été évangélisée et formée par l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était là, il a expliqué la fin des temps. Il a dit qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Il a dit qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période qui s'appelle la Grande Tribulation. Il a tout expliqué, mais après son départ, Thessalonique a reçu une telle persécution. Les chrétiens ont été tellement persécutés qu'ils se disaient, voilà, on a raté l'enlèvement et on est dans la tribulation. Alors, parce qu'ils étaient sûrs d'être déjà dans la tribulation, que l'apôtre Paul a dit, non, vous n'y êtes pas encore. Regardez maintenant, 2 Thessaloniciens 2, 3 à 8.
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché.
Ça, c'est l'Antichrist.
Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
Voilà.
Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
Jusqu'à ce que celui qui le retient soit enlevé. L'Antichrist, donc, ne peut pas se présenter tant que l'Église est là. Nous sommes le sel de la terre qui retient l'Antichrist pour le moment. Quand celui qui retient sera enlevé, vous avez vu ça dans le passage, alors viendra l'Antichrist. Il y a deux ou trois choses dans ce passage à faire noter. Il y a le temple. Il va s'asseoir dans le temple. Vous avez remarqué ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va rebâtir le temple. Ça veut dire que les Juifs vont rebâtir le temple. Deuxièmement, le temple est associé avec l'Antichrist. L'Antichrist est le commencement de la tribulation. Le temple et l'Antichrist sont liés ensemble à la fin des temps. Et puis, après cela, vous avez l'enlèvement juste avant l'apparition de l'Antichrist. L'enlèvement, le temple, l'Antichrist. Combien c'est important, toutes ces choses-là. Et maintenant, Emmanuel, tu peux t'asseoir. Et je vais terminer le message. Je vais parler maintenant de la migration des oiseaux. C'est intéressant, la migration des oiseaux. J'ai vu un documentaire scientifique là-dessus. Et ils ont montré des oiseaux qui hivernent, qui passent l'été dans le nord des États-Unis ou au Canada. Et puis, ils hivernent dans le sud. Alors, au moment de la migration, alors, ils partent. Je me rappelle combien de fois, là où j'habite, il y avait la migration en automne des oies. Oh, que c'est beau à voir, hein? C'est vraiment beau à voir. Il y a une formation de V, toujours, et puis un est plus long que l'autre, et puis il traverse. Et puis, quelqu'un l'autre jour, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, vous savez, ils vont atterrir ici, parce qu'il y a un lac. Ils atterrissent chaque année là. Vous savez que les Américains, quand ils traversent l'Amérique, ils ont des positions, des places où ils passent la nuit. Mais chaque fois, dans le même hôtel, chaque fois, dans le même restaurant, ils mangent. Les oiseaux, pareil. Hein? Quand ils passent, ils atterrissent au même lac, ils font les mêmes choses au fur et à mesure. Alors, chaque oiseau suit un certain chemin. C'est exactement où il va. Ce qui était fort intéressant dans ce film, c'est le dernier oiseau qu'ils ont présenté. Un tout petit oiseau grand comme ça. Hein? Alors, dans le nord, quelque part, pendant l'été, pondu les œufs, alors attendre que les petits sortent, et puis reste avec les petits pendant un moment. Quand le jour arrive de la migration, les parents quittent les petits et commencent leur chemin. Là, ils vont hiverner. 4000 kilomètres au sud. 4000 kilomètres, ils vont survoler. Oh, ils vont s'atterrir de temps en temps, mais ils vont faire 4000 kilomètres. Puis, ce n'est pas ça qui est formidable. Quoique c'est extraordinaire. Vous savez que quand un oiseau vole, cette distance-là, il y a le vent qui souffle de côté. Surtout quand on vole du nord au sud, on est surtout attaqué par les vents qui viennent de l'ouest. Les vents viennent normalement de l'ouest vers l'est. Alors l'oiseau doit toujours ajuster sa direction d'après la vitesse du vent. Parce que si, par exemple, il dévie à peine ici, mais il sera tellement de kilomètres loin de là où il veut être aller, il risque d'atterrir dans l'océan. Alors il faut que ça soit parfait, absolument parfait. Dans ce petit oiseau, il y a un mécanisme beaucoup plus perfectionné que dans les grands avions. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand les petits sont un peu plus grands, 2 semaines après, ils entreprennent le même chemin. Ils n'ont pas vu leurs parents faire le chemin. Ils font le chemin sans le savoir. Ils n'ont jamais vu 4000 kilomètres. Vous savez où ils atterrissent? Dans le même arbre de leurs parents. 4000 kilomètres plus loin. La migration extraordinaire de Dieu. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que si Dieu peut mettre dans l'esprit d'un oiseau, il est temps de partir, ne croyez-vous pas que Dieu peut faire la même chose avec un homme? Est-ce que Dieu ne peut pas mettre dans le cœur d'un homme, il est temps de partir? Surtout quand il s'agit de son peuple Israël, son peuple terrestre. Car Dieu a deux peuples. Il a un peuple céleste composé des chrétiens de tous bords, juifs, non-juifs, tous les pays. Et puis, il y a le peuple terrestre, le peuple d'Israël. Alors, chose extraordinaire, c'est que quand les armées romaines sont entrées à Jérusalem, ils ont détruit le temple, ils ont détruit la ville. Les Juifs ont été dispersés en l'an 70. Ils étaient partout dans le monde. Ils étaient pourchassés d'un pays à l'autre, persécutés à droite et à gauche, leurs choses confisquées, souvent mises à mort, et puis vous connaissez là, l'Holocauste à la fin. Pendant tous ces années, 2000 ans, il n'est pas entré dans le cœur des Juifs d'aller en Palestine. 2000 ans, comme ça, de pays en pays. En 1906, tout d'un coup, dans le cœur de quelques Juifs, est venu, mais je vais partir en Israël. Les gens, où est-ce que vous allez? Mais je vais en Palestine. Mais qu'est-ce que vous allez y faire? Mais j'en sais rien. Mais pourquoi vous allez? Parce que je sens que je dois partir. La migration. Et ils sont partis. Ils ont atterri, si vous voulez, à Jaffa, une ville côtière sur la Méditerranée, une ville qui est très vieille d'ailleurs. C'est là d'où est sorti Jonas, quand il a désobéi à Dieu. Il était allé à Jaffa pour prendre un bateau. Donc, hein, c'est une ville qui date. Et les nouveaux arrivés sont allés à Jaffa. Et là, ils ont commencé à chercher à loger. Et quand les habitants de Jaffa ont vu que, voilà, un juif est venu par là, un autre est venu par là, un troisième est venu, alors ils ont dit, mais voilà, on va augmenter le prix. Hein? Maintenant, c'est le moment de profiter. Alors, finalement, le coût de vie à Jaffa est monté à tel point qu'un juif a dit, mais commençons une autre ville à côté là. Et donc en 1909, la ville de Tel Aviv est née, il y a 100 ans, cette année. 100 ans que la ville de Tel Aviv a commencé. Et alors, petit à petit, ils sont partis, même de la Russie, un peu partout. Les Juifs, pas des masses, mais ils ont senti, je me rappelle, c'était longtemps après, j'étais dans une banque à Toulouse, c'était en 53. Et alors il y avait une jeune fille qui est là, qui m'a servi souvent. Elle m'a dit, vous savez, je vais partir en Israël pour les vacances. Elle était juive. Là, oui, trois semaines qui n'ont jamais fini. Elle a senti l'appel. Et elle est partie. Vous savez, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à planter des vignes, cultiver les champs, ils ont fait tout cela. Ils ont travaillé jusqu'à la guerre de six jours, en 67, en juin. En juin, pour la première fois depuis l'an 70 de notre ère, les Juifs ont pénétré et ont touché le mur de Lamentation. Ce n'était pas qu'ils étaient pleins de joie, c'était l'euphérie. C'est qu'ils ne pouvaient pas se contenir. ils étaient hors d'eux-mêmes. Vous savez, ils étaient au site du temple. C'était là où se trouve le temple. Et quelques jours après, quelques-uns, mais il faut construire le temple. Mais il faut construire le temple. Alors, tout de suite, ils ont commencé à se demander, mais où est-ce qu'on va mettre le temple? Alors, ils ont monté là, ils ont regardé, est-ce que ça doit être là ou là ou là? Mais un autre a dit, mais au moins, faisons l'architecture, au moins, qu'on ait exactement ce qu'on va faire. Donc, ils se sont mis à faire le plan, exactement comment sera le temple. Des années passées, ils ont mis à la vitrine dans la rue de Jérusalem une maquette du temple et que les gens pouvaient voir. Et l'intérêt grandissait, exactement comme le peuple qui est rentré petit à petit, parce que après la formation d'Israël, ils sont venus en masse là-bas. Mais les gens ont dit, mais il faut avoir les meubles. À quoi bon d'avoir le temple si on n'a pas le meuble? Alors ils ont commencé à construire le meuble pour le temple. Puis après ils ont dit, mais il faut avoir des prêtres. Oui, mais comment? Mais il faut essayer de trouver le lignage d'Aaron. Oh là là! Alors sortez toutes les généalogies qu'ils avaient. Finalement, ils ont trouvé des hommes. Ils ont dit, vous serez des prêtres dans le nouveau temple. Oui, mais ils n'avaient pas leurs habits. Alors, ils ont fait les habits selon les différents prêtres. Maintenant, les habits sont faits. Tout est prêt. Tout est prêt pour le temple. S'ils ont fait tout cela, croyez-moi, ils ont taillé toutes les pierres. Tout est prêt à monter. Pourquoi je dis tout cela? Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'à partir du moment qu'ils ont construit Tel Aviv, jusqu'à la formation de Jérusalem, ou de 62, je ne me rappelle pas, il y avait 42 ans quand Israël est formé. 42 ans depuis le début jusqu'à la formation d'Israël. Et j'ai regardé, et depuis 67, jusqu'à cette année, 2009, ça fait 42 ans qu'ils sont en train de préparer pour le temple. Je ne sais pas pour vous, mais ça me donne la chair de poule. Savez-vous que nous sommes à la veille de l'enlèvement? Que c'est imminent, c'est maintenant. On ne peut pas fixer une date. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que si on va faire quelque chose, surtout il faut penser à cette année. Il faut qu'on fasse l'exceptionnel cette année. Il faut qu'on aille au-delà de ce qu'on pensait aller et toucher le plus grand nombre possible. Il y a une autre chose. Quand je pense à cet enlèvement, quand la trompette sonnera et on entend la voix « monte !» et que nous allons monter vers le ciel. Imaginez si ça arrive la nuit et une famille a des enfants qui ne sont pas sauvés. Ils descendent le lendemain matin pour prendre le petit déjeuner. Et où sont les parents? Ils cherchent, ils ne sont pas. Laissés derrière. Je crois que la pire des choses, c'est d'être laissé derrière. Il y a même un film, il y a des livres, laissés derrière. Laisser derrière, d'avoir les enfants qui partent et les parents, mais où sont mes enfants? Oh, ils seront. Oh, les inconvertis vont dire, oh là, c'était des extraterrestres qui sont partis. Mais ceux qui, dans la même famille, savent bien que ce n'est pas les extraterrestres, ils sauront que c'était l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, quand on est juste devant l'enlèvement de l'Église, allons-nous continuer à vivre exactement comme auparavant? Est-ce que nous n'allons pas mettre quoi que ce soit, changer quoi que ce soit dans notre programme, dans notre agenda, d'essayer de faire quelque chose? On est là. C'est le moment que nous attendions depuis longtemps. La bienheureuse espérance. Avant, on espérait. Maintenant, on le sait. On est là. Le temple est prêt à être construit. L'Antichrist est prêt à se dévoiler. L'empire mondial est prêt à se former. La guerre est prête à éclater. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui encore, on peut gagner des âmes. Maintenant, c'est le moment du salut. Mais après, ça sera trop tard. C'est la fin. C'est quelque chose de vivre à cette époque-là. Mais nous sommes tellement blasés par le matérialisme, par la vie de tous les jours, par tout cela, que la réalité de l'imminence du retour de Christ ne nous touche même pas. C'est dur. Mais prions que tu nous changes, que quelque chose se passe, que tout d'un coup il nous secoue et que nous commencions à vivre les derniers jours de notre vie sur terre. Amen.